Oh, soleil sur vous, citoyennes et citoyens. Bienvenue sur le Nexus 6. Je suis le capitaine. La fin du premier quart du 21e siècle a été marquée par un phénomène assez étrange, une fascination pour les films des années 80 et 90. Cette époque bénie qui a accouché de tant de références, où l'on parvenait, tout du moins en apparence, à trouver un équilibre entre films commerciaux, propositions artistiques et prises de risques créatives. Vous savez, ces films populaires, blockbusters, actionneurs et autres qui ont bercé notre enfance. De Retour vers le futur à Gremlins, en passant par Starfighter ou La soupe aux choux. Et évidemment, tous les films avec Stallone, Van Damme et Arnold. Ah, Arnold Schwarzenegger, une icône, il faut le dire. Un comédien qui a su capitaliser sur son physique imposant pour s'illustrer dans des rôles qui correspondaient à cette image. Puis qui a progressivement réussi à proposer des choses plus nuancées, notamment en s'aventurant du côté de la comédie avec des films comme Les Jumeaux, Un flic à la maternelle ou encore Last Action Hero. Je crois que je peux affirmer que j'ai vu tous ces films, et c'est normal pour quelqu'un de ma génération. Sauf un, Running Man. Étonnamment, je suis complètement passé à côté. Alors attention, je connaissais le film, son concept, son esthétique et son histoire. Adapté librement du roman de Stephen King, le film se déroule dans un futur dystopique où la société est dominée par un régime autoritaire et une télévision omniprésente. Ben Richards, un ancien policier accusé à tort d'un massacre, est capturé et forcé de participer à The Running Man, une émission de télé-réalité ultra-violente dans laquelle des condamnés sont traqués par des chasseurs professionnels. Manipulé, mis en scène comme un criminel, Richards deviendra malgré lui le symbole d'une révolte populaire. Au fil des épreuves, il affrontera les chasseurs, exposera les mensonges du système et finira par retourner le spectacle contre ses créateurs, révélant la corruption du régime et la nature propagandiste de l'émission. Il y a tout pour faire un excellent film de science-fiction, pourtant si je ne l'avais jamais vu, c'est parce qu'il m'avait toujours fait l'effet d'un film un peu... kitschouille quoi. Sans grand intérêt. Du coup, je ne l'ai regardé que récemment. Et... bah c'est exactement ce qu'il est. Aussi sympathique soit-il, avec cette bonne vieille vibe de série B de l'époque, et son concept plutôt accrocheur, tiré d'un des romanciers les plus appréciés, et sur un scénario de Steven De Souza, qui n'est pas un manche comme scénariste, même s'il a réalisé Street Fighter, force est de constater que le film est très loin de la qualité que pouvaient proposer les productions de SF de l'époque. Une réalisation lambda, des personnages en roue libre avec des comédiens qui cabotinent, des décors en carton-pâte et des costumes... particuliers, dirons-nous. Autant d'éléments qui en amèneront certains à le classer sûrement parmi les nanars. Ces œuvres ratées pour lesquelles on éprouve tout de même une réelle affection. Et en même temps, que pouvait-on attendre de son réalisateur, Paul Michael Glaser, que vous connaissez surtout pour avoir été Starsky dans la série Starsky & Hutch. Il aura également réalisé Kazam avec Shaquille O'Neal. Bon, autant dire qu'on n'allait pas être au niveau d'un Carpenter. Et sinon, pour l'anecdote qui me fait kiffer, on a la présence de trois comédiens ayant affronté le Predator. Schwarzy, évidemment, mais aussi Jesse Ventura. Ça fait donc deux gouverneurs américains, puisque le premier a été celui de la Californie, de 2003 à 2011, et le deuxième, celui du Minnesota, de 99 à 2003. Et il y a également Maria Conchita Alonso, qui incarnait Leona dans Predator 2. Ah, et Yaya Fetkoto aussi. Mais lui, il se tape plutôt du xénomorphe. Bref, si j'ai apprécié mon visionnage, c'est plus parce que l'ambiance du film m'a renvoyé à ces années-là. Mais n'exagérons rien, c'est pas fameux, hein. C'est pourquoi je n'attendais pas particulièrement le nouveau film Running Man de 2025, cette fois réalisé par Edgar Wright. Même concept, celui d'une course contre la mort, mais au-delà de ce film, même si on va en parler, je vous propose aujourd'hui d'explorer ce sous-genre si particulier de la science-fiction qu'est le Battle Royale. Mais avant d'aller plus loin, il se trouve que sur le Nexus 6, on vient de lancer un nouveau projet qui, par un hasard de dingue, se trouve pile dans cette thématique, le jeu vidéo Nexus 6, Get Funky, Deliver or Die.
Get Funky, Deliver or Die.
Bienvenue, cher voyageur.
La méga corpo de boissons énergisantes Get Funky a lancé son nouveau programme.
Livré ou décapité.
Prisonnier d'un collier électronique, l'équipage du Nexus 6 a 2 heures pour livrer la cargaison, sans quoi leur tête explosera en direct sur Kill Vision, la trash TV locale.
Le carburant des étoiles, c'est qui ?
Get Funky, Deliver or Die est un jeu d'aventure qui se démarque par une narration épicée et un compte à rebours en temps réel. 2 heures. Le gameplay, exploration, dialogue farfelu, mini-jeu et pour finir en beauté, un bon vieux shooter spatial 3D parce qu'on ne s'évade pas sans quelques dogfights fulgurants. En 2 heures, tout s'accélère. Frapper, parler, grimper, ramasser. Chaque choix vous propulse dans une direction différente et certains niveaux n'existent qu'en fonction de ces choix. Si le financement Ulule se passe comme sur des roulettes, vous incarnerez Robin, Cyril, le copilote, Slexno et bien sûr le capitaine avec chacun son niveau à franchir. Et cerise sur le vaisseau, la possibilité de choisir votre perso préféré pour le level final offrant à chaque partie un goût unique.
Get Funky, Deliver or Die.
Nous lançons donc une campagne Ulule afin de financer ce projet. Aujourd'hui, on est à 60% environ, mais le temps défile à vitesse grand V. Il reste moins de 2 mois et on a vraiment besoin de vous, citoyennes et citoyens, pour que ce projet voit le jour, mais aussi pour que le Nexus 6 puisse survivre. Il y a plein de contreparties pour vous faire plaisir, comme ce magnifique néon qui vous rendra cool. Oh oui, cool. Mais vous aurez aussi des hoodies, des t-shirts, des casquettes, des artbooks, etc. Et vous pourrez aussi acheter mon nouveau livre, Créature, en supplément d'un des packs. Vous pouvez vous le procurer en librairie immédiatement, sauf qu'en le prenant via la campagne, vous le recevrez plus tard, mais dédicacé. Il y a même un pack retardataire si vous aviez manqué la campagne précédente, du film Nexus 6 et du documentaire La Galère des Étoiles. Du coup, vous pourrez vous procurer le Blu-ray, mais aussi le t-shirt Nexus 6, l'affiche du film et notre fameux pins. Et à noter que toutes les personnes qui participent à la campagne du jeu vidéo auront accès aux contreparties numériques de la précédente, avec notamment la BO du film Nexus 6. Vous avez été nombreuses et nombreux à nous le demander, donc on l'a rajouté. On compte sur vous, tout dépend de vous, citoyennes et citoyens. Vous avez peut-être remarqué qu'il n'y a plus ou peu de placement de produits sur la chaîne depuis quelques mois. C'est parce que voilà, on veut axer toute notre communication sur la page Ulule. C'est un manque à gagner qu'il faut combler aussi. Donc foncez sur la page Ulule pour faire partie de l'aventure. Le lien est dans la description. Et maintenant, on retourne à votre émission. Le concept du Last One Standing, ou Dernier Debout, est un concept relativement ancien. S'il trouve ses racines culturelles dans ce que l'on s'imagine des combats de gladiateurs de l'Antiquité, et non pas la réalité de ce qui s'y passait puisque c'était beaucoup plus complexe, mais on n'est pas sur une chaîne historique, donc passons. L'idée moderne des Battle Royale vient surtout de certaines œuvres littéraires comme Le Plus Dangereux des Jeux, une nouvelle de Richard Connell de 1924 où un homme est chassé pour le sport sur une île par un aristocrate. Mais aussi Sa Majesté des Mouches de William Golding en 1954 où un groupe d'enfants, en perdition sur une île également, finiront par s'entretuer. Après viendront deux récits qui poseront les bases modernes de ce type d'œuvre, deux écrits de Stephen King, La Longue Marche en 1979, puis The Running Man donc en 1982 qui donnera le film que nous abordions plus tôt. A noter qu'il y a eu en 1958 une nouvelle de Robert Shackley, Le Prix du Danger, qui connaîtra également une adaptation cinématographique franco-yougoslave par Yves Boisset en 1983. Et Running Man, bah ça ressemble énormément au Prix du Danger. Du coup, après la sortie du film de Glazer, il y a eu un long procès pour plagiat qui a été remporté par l'équipe française. Mais c'est en 1999 que sort le roman qui donnera son nom au genre, Battle Royale de Koshin Takami, qui sera adapté l'année suivante par Kinji Fukasaku. Dans Battle Royale, on suivra une classe d'adolescents dans un Japon totalitaire, envoyés sur une île, décidément, et contraints de s'entretuer jusqu'au dernier survivant. Une œuvre culte, également adaptée en manga, qui a eu un retentissement majeur pour toute une génération et qui aura inspiré toutes les œuvres futures. Que cela soit dans le jeu vidéo, avec des titres comme PUBG ou encore Fortnite, mais aussi tout un pan de la littérature Young Adult avec Hunger Games et Le Labyrinthe. Mais avant de voir les thématiques particulières abordées par ce sous-genre, on peut classer le Battle Royale en plusieurs catégories. Le type institutionnel ou étatique, dans lequel le jeu mortel est organisé par un gouvernement pour contrôler la population ou maintenir un système oppressif. Battle Royale, La Longue Marche, The Hunger Games ou encore The Purge. Le type médiatique, qui est souvent lié à l'étatique d'ailleurs, où le massacre devient un spectacle diffusé en direct pour divertir les masses. The Running Man, évidemment, ou encore Gamer. Le type expérimental, ici les participants seront soumis à un protocole, une simulation ou une expérience de laboratoire, comme dans Cube, Le Labyrinthe ou Gantz. Et enfin le type clandestin, dans lequel des organisations secrètes, mafias ou entreprises, créent des jeux mortels pour parier ou tester des cobayes. Vous avez toutes et tous vu Squid Game, par exemple. Je mettrai de côté les Battle Royale que l'on pourrait qualifier de sportifs, tels que les tournois d'arts martiaux, puisqu'il s'agit là d'un cas particulier où souvent, les participants sont volontaires et savent très bien à quoi ils s'exposent. Ce qui fait absolument toute la différence, puisque c'est bien le caractère soudain et coercitif, quand il n'est pas tout simplement mystérieux, de la participation des joueurs d'une Battle Royale qui fait tout le sel de ce type d'œuvre. Il s'agit là d'une des expériences les plus terribles à vivre, devoir tuer pour sa propre survie, des fois des gens que l'on aime. Ainsi, les Battle Royale sont un genre qui permettent d'aborder de nombreuses thématiques profondes. En premier lieu, donc, la lutte pour survivre. Jusqu'où l'on est prêt à aller pour cela? Jusqu'à quel degré de violence? Nos valeurs nous définissent-elles autant que le penser face à une situation aussi dramatique? On explorera ainsi un certain processus de déshumanisation dans le meilleur des cas, ou de manière plus cynique à la révélation de la réelle nature des humains une fois que le vernis de la société se craquelle. Paranoïa, égoïsme, trahison, autant de comportements qui parsèmeront ces récits. Ensuite, le totalitarisme et la critique sociale, puisque ce massacre organisé sera souvent l'occasion d'explorer des sujets comme le contrôle des masses, la propagande ou encore la répartition injuste des richesses, puisqu'on constatera souvent que les personnes se trouvant dans ces situations impossibles sont les plus précaires. Mais aussi, et c'est à noter, une certaine tendance à punir la jeunesse, la révélation concrète d'une société qui refuse tout changement, toute évolution. Enfin, le voyeurisme de la société spectacle, avec une critique directe de la télé-réalité, des médias et du divertissement morbide. Souvent, le public sera complice de la mascarade qui se déroulera devant ses yeux, donnant ainsi une vision particulièrement misanthrope de nos comportements. Par ailleurs, on constatera dans les œuvres plus récentes une critique de la culture du buzz également. Voilà pour les présentations. Et très clairement, les Battle Royale, j'adore ça. Cela a beau être structurellement toujours la même chose, j'aime ce type de mise en situation qui va permettre d'explorer les personnages et voir de quoi ils sont faits. Et si même en leur sein des archétypes reviendront souvent, le héros moral qui refuse de se soumettre au jeu, le stratège, le psychopathe, le pragmatique, le traître, le gentil géant, la victime, le vengeur, etc., je dois avouer que je suis systématiquement impatient de découvrir comment l'œuvre va réussir via ses dialogues, la relation entre les personnages et, lorsqu'il s'agit d'un film, via le jeu des comédiens, à mettre en scène d'une façon innovante ce type de récit hyper codifié. Et c'est là qu'on en arrive au dernier exemple en date à votre époque, ce nouveau Running Man, devant lequel je ne me suis pas ennuyé. Voilà. Ouais. Malheureusement, je n'ai pas grand-chose de plus à dire. Ce n'est pas un film que j'attendais particulièrement, vu que je n'avais pas d'attache avec l'original, comme je le disais. Et en plus, je dois vous avouer que je connais peu Edgar Wright. Alors j'ai vu tous ses films, j'aime beaucoup la trilogie Cornetto, et j'ai un petit faible pour Baby Driver. Je n'ai rien à redire quant à la qualité de ce qu'il produit. C'est juste que quand je dis que je connais peu son travail, c'est que je ne me suis pas intéressé plus que ça. Je ne me suis jamais vraiment penché sur son style, je ne l'ai jamais intellectualisé. Donc si je devais être tout à fait honnête, c'est limite comme si j'avais été voir ce nouveau film sans réellement me rendre compte que c'était le réal des œuvres susnommées. Et résultat, un film pas désagréable, qui propose quelques scènes anthologiques, notamment celle de la maison, avec Michael Cera. On y trouve quelques personnages en couleur, des idées ça et là de mise en scène, la réutilisation de certains codes visuels du web pour donner un cachet plus moderne à la chose. Sinon, au niveau de l'histoire, changer le cadre du Running Man, le transposant dans le monde civil, au milieu du peuple, plutôt que dans un lieu dévolu à ça, comme dans le film original, c'est intéressant. Cela accentue la critique du public de ce genre de programme. J'ai envie de dire contenu, c'est terrible! Plaçant ainsi le peuple dans la position du flic, juge et même bourreau.
La loi, c'est moi!
Puisque ceux-ci peuvent participer au Running Man en pourchassant le bon Ben ou en le dénonçant. Loin de n'être que des spectateurs décérébrés, ils en deviennent acteurs dans une forme de gamification de la délation, l'un des marqueurs du stade ultime de la dystopie. Bref, c'est pas mal, on se fait pas chier, ce qui est mieux que souvent à votre époque, hein? Même si j'ai trouvé la dernière partie un peu longuette, disons que 15-20 minutes de moins auraient rendu la chose plus efficace. Il y a aussi plein d'incohérences et Running Man est assez verbeux des fois, hein? Il t'explique ses thèmes de manière hyper premier degré, mais bon, ça arrive dans plein de films, je vais pas lui en tenir rigueur. Non, le problème, c'est qu'à mon sens, le film ne va pas assez loin dans sa démarche. Il est un peu tiède. Puisque c'est un remake, et que le genre est très codifié, bah, il est important d'aller plus loin pour que son existence soit justifiée. Une image graphique et stylistique ne suffit pas. Parce que le film promettait une certaine folie avec le personnage de Glenn Powell. J'ai vraiment du mal avec ce comédien. Mais bon, j'ai pas vraiment d'argument, j'aime juste pas sa gueule. Ben Richards, il nous est présenté comme un mec hyper énervé, qui a du mal à tenir ses nerfs face à l'autorité. Chose que je comprends et que je respecte. Mais si le film nous l'expose ainsi et nous le montre un peu au début, cela s'essouffle pas mal tout au long de l'histoire. Et cela se ressent dans le rythme global. Running Man aurait vraiment mérité d'être beaucoup plus fou, d'aller à 100 à l'heure, sans aucun temps mort. Surtout que c'est dans le titre, Running Man, l'homme qui court. Là on est plutôt dans... Cache-cache Man ? En fait, Hypertension avec Jason Statham est un meilleur Running Man que cette nouvelle interprétation. Ici, le personnage principal n'a pas le choix, il doit être en action tout le temps, il est survénère. Ça donne au film un cachet hyper cool, qu'on retrouve pas vraiment dans celui de Wright, beaucoup plus sage. Alors que, bah j'ai le sentiment que c'est exactement ce qu'il voulait faire. C'est malheureux, mais dans le genre, j'ai limite préféré un gamer avec Gerard Butler. Le film est con comme pas deux, hein, mais il aborde les mêmes thématiques. Gladiateur moderne, ultra-violence face à une masse populaire que l'on a progressivement abruti, et encore pire, ultra vénale et consommatrice, avec en bonus un concept hyper cool où des joueurs prennent le contrôle du corps de véritables humains condamnés afin de s'entretuer dans un jeu vidéo qui n'a plus rien de virtuel. Et même si c'est pas un chef-d'œuvre, bah il avait pour lui de ne pas trop se prendre au sérieux, d'avoir conscience de ce qu'il était, un film populaire, généreux, qui, je pense, allait faire passer son message auprès des gens que ça concernait, ce qui est assez rare pour être noté. Maintenant, quant à savoir si c'est efficace, je vous laisse juger, c'est vous qui vivez dans l'une des pires époques de l'humanité. Mais c'est peut-être là tout le problème avec ce nouveau Running Man, le contexte dans lequel il a été créé. Tous les Battle Royale précédents ont été produits à une époque où l'on avait l'impression que tout ceci était de la fiction, que c'était trop exagéré, que cela n'arriverait jamais. C'était choquant, et c'est ce qui faisait tout leur intérêt. Mais en 2025, qui serait encore dérangé par ce qu'il verra dans Running Man ? Presque personne. Vous vivez dans une époque si grotesque à tous les niveaux, politique, médiatique, économique, que le nouveau film d'Edgar Wright paraît au mieux bien fade, au pire, limite trop tranquille par rapport à la réalité de la violence de votre société. On est donc face à une œuvre qui, je trouve, ne nous apprend rien, n'a rien de nouveau à dire sur les sujets qu'il traite par rapport à ses prédécesseurs, et qui n'a même pas vraiment la folie créative pour nous marquer davantage. Donc j'avoue que je ressors de ce film en me disant « À quoi bon ? Y a-t-il réellement quelque chose de nouveau à dire sur tout ça ?» D'ailleurs, le film n'a pas vraiment fonctionné, et je pense que, outre l'état plus global de la production cinématographique de votre époque, qui doit jouer tout de même, il y a simplement le fait que le concept de Running Man ne déplace plus les foules, puisqu'ils vivent déjà dans cette dystopie grotesque, ou en tout cas, ils en ont le sentiment. Parce que tous les jours, vous vous levez dans un monde où il y a un gars comme Mr. Beast, mais qui produit 5 Running Man par semaine, en vendant des barres chocolatées de merde avec son sourire faux et sa sale gueule de connard. Alors que la logique voudrait que l'ensemble de notre société lui enlève toute possibilité de se connecter à Internet et de créer quoi que ce soit pour le restant de ses jours. Pour le bien de l'humanité. Mais non, on ne fait rien. On se complaît là-dedans même. Ou bien on n'a pas le choix, pas le temps, on ne voit pas le problème, hein. Donc sincèrement, Running Man, je pense que ça n'a aucune portée, alors que c'est exactement ce qu'il devrait faire, être un caillou dans la chaussure, titiller là où ça fait mal. Bon, au moins il se termine par un petit message d'espoir, avec une révolte populaire face à la folie de ce monde. Si tout ce qui a amené dans le film n'est pas très cohérent et un peu expédié, il a au moins pour lui de finir sur cette petite note vaine, mais salutaire. Merci pour votre écoute, citoyennes et citoyens. J'espère que cette émission vous aura plu. Je vous le répète, nous avons absolument besoin de votre aide pour que le jeu vidéo Nexus 6 puisse exister. Donc foncez sur notre campagne Ulule afin de soutenir ce projet. Sinon, vous vivrez éternellement dans un monde où Mr. Beast continuera à vous inonder de ses productions délétères, alors que le Nexus 6, lui, n'existera plus que dans vos souvenirs et encore. Parce que vous l'avez peut-être pas remarqué, mais depuis le début de cette émission, on a des infiltrations d'eau et des gouttes qui me tombent partout derrière moi, là. Voilà où on en est. En tout cas, merci à toutes et à tous pour votre éternel soutien, quelle que soit sa nature d'ailleurs, dons, mais aussi les partages, les commentaires, likes et autres boosts. C'est grâce à vous que nous avons réussi à tenir jusque-là. Donc merci pour tout. Sans vous, nous ne sommes rien. Par ailleurs, on se lance en live tous les mercredis soirs à 19h sur YouTube, mais aussi sur d'autres réseaux. On va voir. Avec Slexno, on passera un moment avec vous. Ce sera l'occasion de jouer à des jeux ou même d'échanger, de faire des reviews d'anciens épisodes. Enfin voilà, on va tester plein de trucs. Et l'idée, c'est de passer un excellent moment avec vous, au moins pendant la campagne Ulule. Et après, on avisera. Donc soyez au rendez-vous le mercredi à 19h. Si vous êtes abonné, n'hésitez pas à vérifier que votre compte YouTube n'est pas en mode restreint et que la cloche est activée sur Nexus 6. Et pour vous qui n'êtes pas abonné, n'attendez plus et bienvenue dans l'équipage. Soleil sur vous et à très bientôt sur Nexus 6. Ciao.